En ce 12 avril, à Rencontre spirituelle, je compte vous parler de Bossuet. C'est l'anniversaire de sa mort. Bossuet, évêque, prédicateur extraordinaire, considéré même encore aujourd'hui comme le plus grand orateur que la France ait jamais fourni. C'est un prédicateur qui prêchait au moment où nos ancêtres québécois, pour nous qui sommes ici depuis des siècles, eh bien, il prêchait déjà, et oui, et c'est à l'époque où il y a eu une assez forte immigration de France. Je vous signale en passant qu'aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Jules Ier. C'est lui, ce pape, qui a fixé Noël au 25 décembre. Ce pape a régné de 337 à 352. Donc, durant 15 ans, c'était un pape important pour l'unification de l'Église. C'est aussi la fête de quelqu'un dont j'aimerais beaucoup vous parler une autre année. C'est Saint-Joseph Moscati, fort peu connu, qui est mort en 1927. Hein, c'est un saint tout récent, qui est mort à Naples. Et ça n'est pas n'importe qui. Il est mort à 47 ans, même 46 ans. Et c'était un médecin. Bien, oui, un médecin. Alors, je vous raconterai au besoin à la fin, brièvement, sa vie, ou peut-être tout à l'heure. Et aussi, c'est la fête de quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est la bienheureuse Thérèse des Andes. Oui, oui, qui est morte à Santiago, Chili, en 1920. Cette bienheureuse carmélite est morte toute jeune, mon Dieu, à 19 ans. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Oh, je vais satisfaire votre curiosité. Cette carmélite, de son nom Juana Fernández Solar, était sportive, joyeuse, cultivée. Elle aimait quantité de choses, mais elle aimait surtout l'Eucharistie. Elle pratiquait, dit-on, les béatitudes. Et en 1919, à 19 ans, quoi, elle entre chez les carmélites de Los Andes, c'est-à-dire des Andes, où tout de suite, elle entre comme naturellement dans cette vie difficile qui est la vie des carmélites. Et c'est qu'elle était pleine d'un grand amour pour le Christ. Et c'est l'amour qui a transformé sa vie en quelques mois. Et elle s'est consacrée au Christ pour toujours. Et elle a tenu à participer à sa résurrection, comme elle disait. Et elle éprouvait en même temps un grand amour filial pour la Sainte Vierge. Elle a donc, elle a aussi beaucoup écrit plusieurs lettres qui sont des modèles. Et c'est seulement 9 mois après son entrée au couvent qu'elle est morte, à 19 ans. Elle est bien heureuse. Et quant à Saint-Joseph Moscati, ce médecin, qui est né à Bénévent, comme on dit en français, en Italie, il a grandi à Naples. Et en 1894, à l'âge de 14 ans, puisqu'il est né en 1880, il s'est occupé de son grand frère qui était victime d'un grave accident. Ça l'a profondément marqué d'apporter des soins, pour ainsi dire presque médicaux. Hein. Et alors, peu après, à 17 ans, il entre à l'Université de Naples, à la faculté de médecine, à 17 ans, c'est incroyable. Hein? Il était médecin déjà à 23 ans. Il a choisi le service hospitalier. En 1911, le Collège des médecins de la région l'a nommé professeur de chimie physiologique. Il n'a que 31 ans. Ce docteur Moscati portait toujours sur lui un petit crucifix, auquel il tenait beaucoup, son crucifix, avec lequel il faisait régulièrement son chemin de croix. Il avait développé aussi une grande dévotion à Notre-Dame du Rosaire de Pompéi, hein, Pompéi, comme on dit en italien. Si vous êtes déjà allé là, c'est terrible à voir, hein, cette ville qui est disparue sous les cendres du Vésuve, il y a près de 2000 ans. Et un jour, en 1914, on a essayé de le séduire et il a résisté courageusement. Il a fait un vœu privé de chasteté. Il s'est consacré à la Très-Sainte-Vierge. Il a fait de nombreux voyages pour des congrès de médecine, puis il a été le médecin du grand ténor Caruso, si ça peut intéresser les amateurs d'opéra, c'est lui. C'était le médecin de Caruso. Et le 12 avril 1927, à l'âge de 47 ans seulement, il est mort soudainement, en pleine activité professionnelle. Il a été béatifié par le pape Paul VI en 1975. Il a été canonisé en 1987. Un saint médecin. Mais alors passons maintenant à un évêque qui n'est malheureusement pas canonisé. Je doute qu'il le soit jamais, mais c'est une vie magnifique que la vie de Jacques Bénigne. Curieux nom, n'est-ce pas? Je vous en ai parlé l'autre jour. Il y a plusieurs saints du nom de Bénigne. Jacques Bénigne Bossuet. Je commence avec une anecdote amusante. C'était un soir de 1643 à l'hôtel de Rambouillet. L'hôtel de Rambouillet, c'était l'hôtel de Catherine de Vivonne Pisani, qui était marquise de Rambouillet. Elle est morte en 1665. Elle tenait un salon extrêmement important dans son immense hôtel privé, rue Saint-Thomas-du-Louvre. Alors, les habitués de la chambre bleue de cet hôtel, qui étaient des mondains, en somme, plutôt, n'est-ce pas, sont réunis pour entendre prêcher un jeune écolier, tout jeune, du Collège de Navarre. Ça s'appelait comme ça, ce collège à Paris, le Collège de Navarre. Alors, on lui a proposé un sujet à ce jeune garçon. On l'a laissé réfléchir quelques minutes. Puis, il s'est mis à parler. Le succès de ce débutant est prodigieux. Ce nouveau prédicateur n'a que 16 ans. Et comme il prononce son sermon à 11 heures du soir, ben Vincent Voiture, qui était de l'Académie française, hein, c'était un habitué de l'hôtel de Rambouillet, c'est l'auteur de sonnets qui était populaire à l'époque, Vincent Voiture, drôle de nom. Hein. Alors donc, comme il avait, le petit Bossuet, prononcé son sermon à 11 heures du soir, Voiture, qui était charmé et puis surpris, s'est écrié « Je n'ai jamais entendu prêcher ni si tôt, 16 ans, ni si tard, 11 heures du soir. » Alors, ce petit abbé Bossuet, car il était déjà un petit abbé, comme on faisait à l'époque, parce qu'il faisait des études en préparation du sacerdoce, comme au petit séminaire, si on veut. Hein. Ça existait encore en Italie, il n'y a pas longtemps, ça, on voyait dans les rues du sud de l'Italie des petits bonshommes de 15 ans qui portaient la soutane. Alors donc, ce petit abbé Bossuet, qui est précoce, et selon l'expression de Talmant des Réaux, qui était très connu, c'est un mémorialiste, auteur d'historiettes, là, qui est mort en 1692, mais Talmant des Réaux, et voit ce petit abbé qui préchote, comme dit Talmant des Réaux, préchoter, un nouveau verbe, qui préchote devant cet auditoire composé de femmes illustres, de savants, de lettrés. Eh bien, ce petit Bossuet, c'est le septième enfant, le cinquième fils de Bénigne Bossuet, qui est conseiller au Parlement de Metz. Il est le petit-fils de Jacques Bossuet, ancien conseiller au Parlement de Dijon. Il est né lui-même à Dijon. Le 27 septembre 1627, ça c'est la naissance de ce grand prédicateur, 27 septembre 1627. Il a été baptisé le même jour, hein, à l'église collégiale et paroissiale de Saint-Jean, la fameuse église à Dijon. Et puis, il reçoit pour prénom celui de son grand-père et celui de son père. Alors, Jacques Bénigne Bossuet appartient à une famille de magistrats, des magistrats qui sont plutôt intègres. Tous les magistrats ne sont pas toujours intègres, mais heureusement, dans sa famille, ça l'était. Et dès le berceau, bien, la leçon de l'exemple, n'est-ce pas, le forme assez facilement à la pratique de ce qu'on peut appeler les vertus chrétiennes. C'est un bon garçon. Il est confié aux soins de son oncle, Claude Bossuet. Puis il est, dès l'enfance, un de ces écoliers remarquables qui ont leur histoire. Et au collège des Jésuites de sa ville natale, où il a commencé ses études, il se fait remarquer par l'étonnante capacité de son intelligence et de sa mémoire. Puis par son ardeur au travail aussi. Cette ardeur lui vaut de la part de ses condisciples d'ailleurs un surnom très amusant, mais c'est un surnom en latin. On connaissait pas mal le latin dans ce temps-là. Alors, on l'appelle Bos Suetus Aratro, ce qui veut dire bœuf habitué à la charrue. C'est un jeu de mots parce que Bos Suetus, ça ressemble à Bossuet, n'est-ce pas? Alors, il s'intéresse à Homère, à Virgile. Il apprend par cœur Homère et Virgile. Il a une mémoire fabuleuse. Et ce sont ses maîtres préférés jusqu'à l'heure décisive où il découvre la Bible. Oui, il découvre la Bible dans la bibliothèque de son père. Et ce livre fait sur lui une impression profonde. En 1642, ses études classiques terminées, mais cet adolescent de 15 ans, qui est déjà tonsuré, est déjà chanoine de la cathédrale de Metz, et il vient à Paris étudier la philosophie et la théologie sous la direction des maîtres du Collège de Navarre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à l'école d'ailleurs de Nicolas Cornet. Ce prêtre, qui est honoré de la confiance du Vatican, du Saint-Siège, qui est estimé de Louis XIII, c'est un prêtre très important. Et Bossuet va faire des progrès extraordinaires. Il approfondit, imaginez, la langue grecque. Il approfondit la langue grecque. Il lit avec passion la Bible, les pères de l'Église. Il se familiarise avec saint Thomas d'Aquin, puis toutes les subtilités de la scolastique. Il a un esprit brillant. Et tout en se préparant avec piété au sacerdoce, le jeune Bossuet, qui est étudiant au Collège de Navarre, a un certain appétit pour les divertissements qu'on dit mondains. Il fréquente le théâtre. Savez-vous avec qui? C'est assez amusant. Il va au théâtre avec son fameux ami de Rancé, le fameux abbé de Rancé, qui plus tard va se convertir à l'audition d'un évangile dans l'abbaye où il va chercher de l'argent parce qu'il est abbé commendataire, c'est-à-dire que le roi lui permet de prendre des profits de l'abbaye pour son propre luxe. C'était terrible à l'époque, hein? Et cet abbé de Rancé va se convertir, puis il va réformer les cisterciens à la trappe en France. Les cisterciens, c'est pour ça qu'on les appelle les trappistes. Alors donc, il va au théâtre avec son ami de Rancé, puis il trouve plaisir à assister à des tragédies de Corneille. Rien de mal là-dedans. Hein. En 1648, le grand Condé, qui est le fils du roi Henri II, qui avait été très lié avec la famille de Bossuet, qui avait connu le jeune homme à Dijon dans son enfance, accepte la dédicace de sa première thèse, sa tentative, comme on disait alors. Et le sujet de cette thèse, savez-vous ce que c'est? Dieu triple et un, puis les anges. La soutenance a lieu le 24 janvier en présence de Condé lui-même et de plusieurs de ses amis, car tout le monde veut l'entendre. Finalement, Bossuet est ordonné sous-diacre. En 1648, à Langres. Et là, il est diacre à Metz, un an après. À 21 ans, jour pour jour, il est diacre. Il s'initie à l'étude de l'Évangile sous la direction Saint-Vincent de Paul. C'est pas n'importe qui l'a comme pour comprendre l'Évangile. Il est ordonné prêtre en 1652 à 24 ans. Quelques jours plus tard, il soutient avec succès sa thèse de docteur en théologie. Le chancelier de l'Université de Paris, la Sorbonne, lui remet solennellement le bonnet, les autres insignes de docteur en l'église de Notre-Dame. Et là, devant un autel, placé sous le vocable des martyrs, là, il s'engage par ce serment. C'est très beau, il est tout jeune. Hein? Ô vérité suprême, conçue dans le sein paternel de Dieu. En d'autres termes, il parle du Fils éternel, qui est la vérité suprême, puisque Jésus a dit « Je suis la vérité hein? ». Je recommence. Ô vérité suprême, conçue dans le sein paternel de Dieu, nous nous enchaînons à votre cause. Nous lui consacrons toutes nos forces, tout notre être, le souffle qui nous anime. Vous savez, un jeune de 24 ans qui dit « nous » en parlant, ça semble curieux aujourd'hui, mais on est au 17e siècle, c'est un autre langage. Et dans cette promesse, on peut dire qu'il est contenu toute sa vie. Il fuit la renommée. Il considère les honneurs ecclésiastiques comme un obstacle dangereux. Et jeune prêtre, il s'empresse d'échapper à tous les plaisirs de l'amour propre. Il tient à se faire oublier pendant 7 ans. Alors, de 1652 à 59, il réside à Metz, dans le Nord, avec le titre d'archidiacre de Sarrebourg. Pendant tout son séjour en Lorraine, donc, on le voit remplir les diverses obligations de son sacerdoce. Un vrai prêtre. Il apparaît comme le plus grand champion de l'Église catholique. Tout jeune, il a des débats avec les protestants, avec les juifs, très nombreux, dans la capitale de la Lorraine, où il y a beaucoup de protestants et de juifs. Mais aujourd'hui, ça se fait plus, des débats comme ça. Mais dans ce temps-là, il s'en faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et lui était un champion des débats. Et dans le pasteur Paul Ferry, qui était très réputé comme pasteur calviniste dans son temps, et aussi David Ancillon, il trouve des adversaires dignes de lui. C'est un travailleur acharné, Bossuet. Il prend sur son sommeil, il étudie minutieusement la Bible pour pouvoir répondre avec succès à leurs objections. Alors, il écrit la réfutation du catéchisme de Ferry, ce pasteur protestant, et ça couronne ce débat. Il y a des résultats étonnants, et l'apostolat de ce tout jeune prêtre est récompensé par des conversions nombreuses, même chez des gens très nobles. Et c'est de cette époque que datent ses premiers succès. Alors, il écrit... Et puis il fait le panégyrique de Saint-François d'Assise, de Saint-Bernard, de Saint-François de Paul. Il a 27 ans seulement. Et ce sont des panégyriques, ce sont des immenses sermons très longs, qui durent quoi, une heure et demie, deux heures. Et sans abandonner son titre de chanoine, ni son titre d'archidiacre de Metz, Bossuet, de 1656 à 1657, se partage entre Paris, Dijon et Metz. En 1656, il donne à Dijon un sermon sur la Providence qui fait sensation. Il prononce la même année le panégyrique de Saint-Joseph. À Paris, ceux de Saint-Charles-Borromée et de Sainte-Catherine. L'année suivante, ceux de Saint-Paul, de Saint-Thomas-d'Aquin, de Saint-Victor. Alors, il s'intéresse beaucoup aux saints, comme vous voyez. Il prêche beaucoup sur les saints. Et ses prédications remportent un vif succès, attirent l'attention de la cour. Et devant la reine-mère, il prêche, en 1657, à Metz, le panégyrique de Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse d'Avila. Et en 1659, à Paris, il reprend devant la reine encore le panégyrique de Saint-Joseph. Plusieurs sermons isolés datent de cette époque, d'ailleurs. En 1660, eh bien, Bossuet commence la série des carèmes et des avants. C'est fameux, le carême de 1660, chez les Minimes, je vous en ai parlé l'autre jour, du fondateur des Minimes, n'est-ce pas? Chez les Minimes de la Place Royale, il y a des sermons sur les démons, sur l'honneur du monde, sur les vaines excuses des pécheurs, sur la passion. C'est les plus remarquables, ça. En somme, le carême, finalement, de 1661, au Carmélite du Faubourg Saint-Jacques, les sermons sur la parole de Dieu, sur la haine de la vérité, sur les souffrances et sur la passion... Ce sont des sermons qui ont converti énormément de gens et qui ont fait sensation depuis. Il y a le carême de l'année suivante au Louvre. Oui, au Louvre, palais du Louvre. Sermon sur la prédication évangélique, sur l'impénitence finale, sur la providence, sur l'ambition, sur la mort, sur les devoirs des rois. Parce qu'ils ne se gênent pas pour parler à la cour et leur dire leurs quatre vérités. On n'entend plus ça aujourd'hui. Je vois difficilement, et aujourd'hui, le cardinal archevêque de Québec... s'adresser de façon violente et claire et précise aux grands chefs d'État pour leur dire sa façon de penser. On n'oserait plus faire ça. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Ça pourrait faire des belles manchettes. Son carême, finalement, de 1665 à Saint-Thomas-du-Louvre, puis l'avant aussi, la même année, et d'autres à Saint-Germain-en-Laye. Il y a des sermons sur l'honneur, sur l'amour des plaisirs, sur la justice... Sur l'enfant prodigue, oui, qui est redevenu à la mode ces temps-ci, l'enfant prodigue, on en parle beaucoup avec raison, d'ailleurs, quelle belle parabole, la plus belle de Jésus. Les sermons sur l'ambition aussi, tout ça, mais ça mérite une mention spéciale. Et alors, il est en pleine possession de son éloquence. On écoute Bossuet avec émotion, on l'admire. La société choisit, se presse au pied de la chaire, de l'endroit où il monte pour aller prêcher. C'est ça qu'on appelle la chaire. C'est disparu dans la plupart de nos églises. Les âmes d'élite de la rue Saint-Jacques, dit-on, trouvent les lumières et les consolations spirituelles qui leur sont nécessaires dans la doctrine, écoutez bien ça, dans la doctrine élevée qui leur est prodiguée. C'est pas des petites affaires là qui prêchent, lui. Il prêche avec profondeur une doctrine élevée et tout le monde y accourt. Le roi, la cour accepte sans se plaindre les vérités parfois bien dures à entendre qui tombent de sa bouche. Mais cependant, la prédication est loin d'accaparer toute l'activité de Bossuet. Son apostolat demeure toujours aussi ardent. Et puis il obtient la conversion de protestants illustres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mademoiselle de Bouillon, le fameux Turenne, le fameux Delorge, etc., qui comprennent finalement que l'unité des chrétiens au sein de l'Église catholique est fondamentale. Alors Bossuet est nommé à l'évêché, ça va vous faire rire, de Condom, oui, C-O-N-D-O-M, en 1669, mais sans être obligé d'y résider. Et puis, il prononce l'oraison funèbre de la reine d'Angleterre, bientôt suivie de celle de la duchesse d'Orléans. Ben oui. Et en 1670, il est nommé précepteur de qui? Du Dauphin, l'héritier du trône de France, fils de Louis XIV, qui ne règnera pas. Parce que le successeur de Louis XIV, si je me souviens bien, c'est son arrière-petit-fils. Alors, Bossuet considère l'éducation de ce prince comme une sorte de ministère, puis il voit dans cette nouvelle charge un devoir, là où d'autres n'auraient vu évidemment qu'un honneur. Mais malheureusement, le travail qu'il s'impose pour instruire ce jeune dauphin n'a pas grand succès. C'est un garçon un peu mou. Les chefs-d'œuvre qu'il écrit pour son élève sont d'ailleurs un peu trop au-dessus de la portée de l'intelligence de ce jeune prince. D'ailleurs, c'est Saint-Simon qui écrit, le fameux Saint-Simon qui a écrit des paquets de livres, j'ai tout ça chez moi dans la collection de la Pléiade, faut pas trop se mettre là-dedans, parce que c'est des ragots interminables, on peut passer des années à lire ça. Alors, il écrit donc, au sujet du jeune dauphin, « Son intelligence était nulle, sans aucune sorte d'esprit, sans lumière, ni connaissance quelconque, et radicalement incapable d'en acquérir. » Sans discernement, absorbé dans sa graisse et dans ses ténèbres. Il n'est pas gêné pour l'héritier du trône. Hein. Mais les années de préceptorat de Bossuet ne sont pas perdues et nous devons à cette éducation là, du dauphin la composition de trois grands traités. D'abord, de la connaissance de Dieu et de soi-même, un exposé magistral de la théologie catholique. Et puis, où il mélange l'Évangile, Platon, saint Thomas d'Aquin, Descartes. Ensuite, la politique tirée de l'Écriture sainte. Puis le discours sur l'histoire universelle, très renommé, dans lequel on voit tous les empires qui témoignent tour à tour leur faiblesse, puis qui avouent que Dieu seul est grand. Et on verra tout à l'heure, dans les autres œuvres de Bossuet, l'immensité de sa pensée. Alors, il est précepteur du dauphin, c'est-à-dire le fils du roi Louis XIV. Et il a donc des débats avec des conférences contradictoires, en particulier avec le ministre Jean-Claude, qui est un pasteur protestant, qui est un adversaire de Bossuet, qui est décédé en 1687. Et ces débats ont pour résultat immédiat, d'ailleurs, la conversion de Mademoiselle de Duras. Je ne sais pas si c'est une ancêtre de Marguerite Duras. Mademoiselle de Duras, qui est morte en 1678. Et la même année, il s'attaque aux jansénistes, il fait condamner l'oratorien Richard Simon, très, très connu. Richard Simon, c'était un savant extraordinaire qui avait publié une histoire critique du Vieux Testament. Et je crois que c'était un précurseur, dans un certain sens, de l'exégèse moderne. Et dans son histoire critique du, ce qu'il appelle le Vieux Testament, et j'aime bien ça plutôt que l'Ancien, Testament, c'est pas un Ancien Testament, il est toujours un testament, c'est-à-dire une alliance entre Dieu et l'homme, qui est toujours valable. Et alors, donc, histoire critique du Vieux Testament, de ce Richard Simon, mais Richard Simon y étudie librement le texte sacré. Il applique pour la première fois les critiques historiques et même philologique, la langue, si vous voulez, à l'examen de la Sainte Écriture. Et Bossuet s'est si terriblement attaqué à ce pauvre Père Simon qu'il a dû quitter la congrégation à laquelle il appartenait, qui était l'oratoire, n'est-ce pas, fondé par le cardinal de Bérulle à la suite de Saint-Philippe Néri. L'éducation du dauphin, l'héritier du trône, une fois terminée en 1681, bien Bossuet, qui avait été élu membre de l'Académie française en 1671, est nommé premier aumônier de la Dauphine, sa sœur, et évêque de Meaux. Meaux, c'est pas loin de Paris, c'est en Seine-et-Marne, petite ville sans grand intérêt. Quand on passe par Meaux, on n'a pas le goût d'arrêter, si ce n'est que pour s'acheter peut-être de la moutarde de Meaux qui est si bonne. Et la vie de Bossuet devient plus active que jamais. Il administre son diocèse avec zèle et ponctualité, puis il prêche tous les jours quand il le peut. Il occupe désormais dans le clergé une place très importante. Et il exerce par son orthodoxie une sorte de dictature qui est unanimement acceptée. Il est plutôt, penche plutôt vers un certain conservatisme, mais pas exagéré. Et en tous les cas, il n'est pas tombé dans le jansénisme. Hein. Loin de là. Il remonte dans la chaire pour prêcher, là, pour prononcer des oraisons funèbres de Marie-Thérèse en 1683, de la princesse palatine, Anne de Gonzague de Clèves. Hein. Quelle magnifique vie que celle de cette femme qui est descendue très bas et qui est remontée très haut, qui est morte comme une sainte d'ailleurs. Il fait l'oraison funèbre aussi de Michel de Tellier, personnage extrêmement important, puis du prince de Condé. En tous les cas, à partir de cette date, il renonce volontairement à paraître dans les grandes solennités religieuses, puis consacre sa vieillesse à l'administration de son diocèse, à la direction des âmes. Mais toujours à la controverse, il veut convertir, hein? Il veut ramener à l'Église catholique certains Français qui sont passés au protestantisme. À l'époque, il y avait toujours cette profonde querelle entre Français. Il écrit pour ses religieuses les méditations sur l'Évangile, puis les élévations sur les mystères. J'ai une belle édition des élévations sur les mystères, et j'ai le goût de vous lire au tout début un bref texte magnifique. Ça commence comme ça, tout simplement. Jésus, mon Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, et le vrai Christ promis aux patriarches et aux prophètes dès l'origine du monde, et fidèlement donné dans le temps au saint peuple que vous avez choisi. Vous avez dit à votre sainte et divine, vous avez dit de votre sainte et divine bouche, c'est ici la vie éternelle de vous connaître. Vous qui êtes le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que vous avez envoyé. En la foi de cette parole, je veux, avec votre grâce, me rendre attentif à connaître Dieu et à vous connaître. Ça commence comme ça. Il y en a des pages. C'est d'un grand style. Il faut vraiment s'habituer un peu. Bossuet est un gardien jaloux de la doctrine catholique traditionnelle. Il publie d'ailleurs son histoire des variations des églises protestantes, où il montre la multiplication des églises protestantes qui est inévitable à son avis, qui se multiplieront et iront toujours en augmentant. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé. Et en cette fin de XXe siècle, les églises protestantes ont beau essayer de s'unir, elles se multiplient sans cesse. Il avait publié ça en 1688. Il écrit aussi 6 avertissements aux protestants l'année suivante, jusqu'en 91. On peut dire qu'il a réussi, selon les anciens textes, à emprisonner dans les filets de sa dialectique ceux qui étaient les plus grands polémistes, les plus savants de son temps. Il tente, avec l'intermédiaire même de Leibniz, une réconciliation avec les églises protestantes. Mais il échoue dans ses efforts. C'est une sorte d'écuméniste à sa façon, mais à la façon de ce temps. On n'accepterait pas facilement cette forme d'écuménisme aujourd'hui. Enfin, Bossuet engage avec le fameux Fénelon, le grand prédicateur et mystique, un duel de 5 années, de 1694 à 99. C'est un des grands événements de l'histoire de l'Église en France. Tout ça à propos du quiétisme. Il va en sortir victorieux. Il s'est imposé un travail épouvantable, vraiment un travail terrible, pour réfuter l'erreur du quiétisme. Le quiétisme est une doctrine selon laquelle la perfection chrétienne réside dans l'abandon absolu en Dieu. Et on aboutit, quand on a des œillères comme celle-là, on aboutit à la condamnation chez certains des œuvres. On ne veut plus s'engager, faire. Il suffit de s'abandonner d'une façon mystique en Dieu. Et c'est très dangereux, ça existe. Les gens se retirent, ne font plus rien, et se complaisent dans une espèce de mystique intérieure pendant des heures, à croire qu'ils sont avec Dieu, en Dieu, un abandon absolu en Dieu. La nuance est très importante à faire entre cette attitude, qui est l'attitude des grands contemplatifs, et une attitude vraiment chrétienne, vraiment catholique. Malgré toutes ses occupations, Bossuet trouve le temps d'aller à Versailles, à Chantilly, le fameux château de Chantilly. Il prêche des retraites, il écrit des lettres de direction. C'est en 1702 seulement que la maladie vient ralentir son activité. Puis il meurt le 12 avril 1704, les armes à la main, selon l'expression de Saint-Simon dont je vous ai parlé tout à l'heure, le duc de Saint-Simon, qui a écrit ses mémoires fabuleux. Mais on peut dire que Bossuet appartient à la race de ceux qui ne meurent pas tout entiers. Et grâce à la dignité de sa vie, oui, la dignité de sa vie, grâce aussi au génie qui éclate dans ses ouvrages, bien, Bossuet reste, comme l'a appelé La Bruyère dans son discours de l'Académie française, le fameux La Bruyère, un père de l'Église des temps modernes. Mais il faut dire que Bossuet n'est pas, à proprement dit, un littérateur, c'est-à-dire, si vous voulez, un homme de lettres, ou comme on dit tout simplement, un écrivain. Pourtant, il y a de très, très beaux textes, si on les... magnifiques, mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il est d'abord un prêtre. Oui, oui, un prêtre. Un prêtre dont la mission consiste à former, à instruire, à toucher les âmes. C'est ça un prêtre. Hein? Ben oui, un prêtre, ça sert à quoi? Ça sert à nous former, à nous instruire, prêcher, à toucher les âmes, à nous rassembler au sacrifice eucharistique, à nous permettre de nous comprendre dans le sacrement de la pénitence ou de la réconciliation. Un prêtre, c'est tellement grand, et chez Bossuet, ça l'était. Il considère donc la prédication comme un moyen d'apostolat, et non pas comme une œuvre littéraire. On peut dire d'ailleurs de lui, il ne se sert de la parole que pour la pensée, et de la pensée que pour la vérité et la vertu. Le principe général que Bossuet a énoncé dans son sermon sur la parole de Dieu, il l'appliqua à la lettre au cours de sa carrière oratoire. Tous ses efforts ont tendu uniquement à réaliser cet idéal. Mais il n'y a pas réussi au début. Ça y a pris un certain temps. Et voici ce principe. C'est ce qu'il écrit. « Les prédicateurs doivent rechercher non des brillants qui égayent. » Des brillants, c'est-à-dire quoi? Des sequins, de la verroterie, si vous voulez. Bon. « Les prédicateurs doivent rechercher non des brillants qui égayent, ni une harmonie qui délecte, ni des mouvements qui chatouillent, oui, c'est ce qu'il écrit, des mouvements qui chatouillent, mais des éclairs qui percent. » Écoutez bien ça, là, c'est très beau. « Des éclairs qui percent, un tonnerre qui émeuve, une foudre qui brise les cœurs. » C'est ça, un prédicateur, imaginez. Est-ce qu'on peut encore prêcher comme ça aujourd'hui? Je me le demande. On peut se poser en tout le moins la question. Alors, pendant la période où il réside à Metz, son éloquence, qui est inspirée surtout par Tertullien et Saint-Augustin, devient plutôt théologique. Elle devient comme un enseignement plutôt professoral. Ses discours de jeunesse sont quand même remarquables par une ardeur, puis aussi une véhémence, puis une hardiesse, tout inspirée de la Bible. Ça dénote chez lui, d'ailleurs, une foi très, très, très vive. D'accord, il étale un peu trop ses auteurs, il cite les auteurs. Il veut se servir de sa science qu'il vient d'acquérir, il est jeune. Il abuse aussi d'une espèce de raisonnement de la scolastique, le raisonnement théologique, philosophique. Il cite, avec un peu d'excès, le Pline le Jeune, puis Lucien, les auteurs latins d'autrefois. Il emploie aussi des métaphores un peu bizarres. Il s'abaisse même à un certain réalisme un peu grossier, même que je dirais qu'il est un peu trivial. Le panégyrique qu'il a fait de Saint Gorgon est rempli de ses manques de goût. De 24 ans à 30 ans, c'est-à-dire de 1650 à 1657, il va travailler à se corriger. Il lit, il médite, il étudie. La simplicité se manifeste davantage chez lui. Les excès vont diminuer. La phrase prend de l'ampleur. Le panégyrique de Saint Bernard de Clairvaux, le fameux grand cistercien du Moyen Âge, prédicateur des croisades, contient des passages d'une beauté achevée déjà. Il est jeune, une trentaine d'années. De 32 ans à 42 ans, c'est-à-dire de 1660 à 1670, l'éloquence de Bossuet devient assez philosophique et dogmatique et morale. Il a une influence chez lui de Saint-Jean Chrysostome, ce grand Saint-Jean Chrysostome dont je vous ai parlé le 13 septembre, en même temps que je vous ai parlé de Dante. Alors, son influence de Saint-Jean Chrysostome, ça vient tempérer celle qu'il avait reçue de Tertullien puis de Saint-Augustin. Ça calme un peu les choses. Bossuet se rapproche alors de Pascal, même de Molière et de Rochefoucauld, dans sa façon, son analyse des mœurs, de la morale. Et sans perdre de son ardeur naturelle, bien là, il acquiert le goût. Il la mesure. La construction de ses discours devient plus simple, plus élégante. Les raisonnements scolastiques ont disparu à peu près complètement. Sa langue devient, à certains moments, absolument magnifique. Et Bossuet sait maintenant être précis, noble. Il est même hardi, il est familier, il est simple quand il le faut. Saint-Vincent de Paul, Monsieur Jean-Jacques Ollier, fondateur des Sulpiciens, oui, fondateur de nos Sulpiciens ici de Montréal, au Grand Séminaire, et à l'Église Notre-Dame, et le cardinal de Bérulle, ne sont pas étrangers à sa transformation. Il a des amis importants, comme vous voyez. Bossuet avait renoncé à la prédication durant les années consacrées aux dauphins, là, de 1670 à 1681. Et nommé évêque de Meaux, il recommence à prêcher, comme je vous l'ai dit, dans sa cathédrale, dans des églises, puis les couvents son diocèse. Son éloquence a acquis la dernière forme, n'est-ce pas? Il est, comment dirait-on, il cherche à baser son éloquence sur la Bible, sur des textes de la Bible. Et puis, il cherche aussi à faire comprendre ce que c'est que la vraie religion catholique, la vraie religion chrétienne. Ce que veut Bossuet, il veut tout simplement éclairer et diriger les âmes. Il veut les conduire vers la vérité avec un V majuscule. Il veut leur faire aimer le souverain bien. C'est ça la préoccupation constante de Bossuet. Il veut que les gens deviennent des saints. Il s'écartera jamais de ce principe. Quand il prêche le panégyrique d'un saint, quand il prononce l'oraison funèbre d'un grand de ce monde, quand il donne un sermon pour une grande fête de l'année, il cherche avant tout l'instruction puis l'édification des fidèles. Pour lui, le panégyrique d'un saint, comme l'oraison funèbre d'un grand de la terre, c'est une espèce de thèse de théologie avec des exhortations, oui, des exhortations puis des conclusions morales. Il considère la foi comme quelque chose de fondamental qui détermine la volonté, la bonne volonté des gens. C'est à partir d'une foi solide qu'on peut avoir une volonté sûre et claire. Et cette thèse est illustrée par des détails édifiants qu'il emprunte à la vie du saint ou du personnage illustre dont Bossuet fait l'éloge. Le panégyrique de saint François d'Assise met en lumière, évidemment, l'amour de la pauvreté. Celui de saint Pierre Nolasque appuie sur le dévouement envers le prochain. Celui de saint Joseph insiste sur les mérites de la vie cachée. L'oraison funèbre, au cas où il y a des gens qui ne comprendraient pas ce que c'est qu'une oraison funèbre, c'est évidemment un long sermon prononcé à l'occasion du décès de quelqu'un, qui est prononcé parfois quelque temps après. Alors l'oraison funèbre est pour Bossuet un véritable sermon dont la pensée chrétienne de la mort occupe le centre, évidemment. Il reprend des passages, des fois, de sermons qu'il a déjà faits, pour les insérer, puis les reprendre, puis les biffe. Les quelques rares manuscrits qui nous sont vraiment restés, on voit que ça l'importe peu, ces manuscrits. Lui, il les biffe, il les déchire, il parle pas pour l'avenir, il n'a pas conscience de ça. L'oraison funèbre qu'il fait de Henriette de France, contient un passage du sermon sur la Providence. Celle d'Henriette d'Angleterre offre des points communs avec le sermon sur la mort. Celle d'Anne de Gonzague de Clèves avec le sermon sur l'impénitence finale. Et Bossuet a toujours le souci de convertir. Il veut convertir. Et ses panégyriques, comme ses oraisons funèbres, se terminent par des exhortations très fortes, des conclusions enflammées. C'est un grand orateur chrétien qui se sert de ces deux genres pour entreprendre une espèce de croisade morale contre cette société dépravée, bien que croyante. Oui, c'est pas d'aujourd'hui que la société croyante est dépravée. C'était comme ça dans ce temps-là. Et ça semble être passablement comme ça aujourd'hui. Bossuet concentre ses efforts sur les vices essentiels dont dérivent tous les autres. Quels sont ces vices essentiels, d'après lui? L'ambition, l'orgueil, puis la volupté. Il reproche aux femmes leur coquetterie, leur désir excessif de plaire. Il juge sévèrement leur pédantisme dans le panégyrique de Sainte-Catherine. Bien oui. Il craint pas de s'attaquer aux grands. Il blâme même leur dureté envers les pauvres. Lui qui est évêque, c'est pas Monseigneur Gaillot qui a inventé ça, comme vous voyez. Il est évêque et il blâme clairement les grands de ce monde de leur dureté envers les pauvres, auxquels il s'intéresse profondément, lui qui est un ami de Saint-Vincent de Paul. Il fait ça dans le panégyrique de Saint-François d'Assise qu'il faut lire. Il blâme chez les grands leur libertinage, leur indifférence religieuse. Il faut lire l'oraison funèbre d'Anne de Gonzague, il en parle dedans. Il s'en prend même au clergé. Il n'y va pas de main morte. Il s'en prend aux prédicateurs. Souvent, il y a beaucoup de prédicateurs. Parce que quand il fait l'oraison funèbre du père Bourgoin, ou du père Nicolas Cornet, ou le panégyrique de Saint-Charles Borromée, ben, il y a beaucoup de prêtres qui sont là. Il leur dit des choses terribles. Il s'en prend même à la magistrature, c'est-à-dire les juges, les avocats, quand il fait l'oraison funèbre de Michel Letellier. Et savez-vous qu'il s'en est pris au roi lui-même? Pourtant, il aime le roi. Mais son amour pour Jésus-Christ est encore bien plus fort que celui qu'il porte au roi. Ça n'échappe pas à ses critiques. Il dit des choses absolument terribles. Terribles. On a peine à croire que le roi ne l'a pas fait enfermer à certains moments. Je lis ici à la fin de l'oraison funèbre de Marie-Thérèse d'Autriche. Amassez donc tous les biens qu'on ne peut perdre. En d'autres termes, cessez donc d'amasser des biens que vous pouvez perdre. Prêtez l'oreille au grave discours que Saint Grégoire de Nazianze adressait au prince et à la maison régnante. Respectez, leur disait-il, Saint Grégoire de Nazianze. Il prend le texte de Grégoire de Nazianze pour parler au roi. Respectez votre pourpre, c'est-à-dire vos honneurs. Respectez votre puissance qui vient de Dieu et ne l'employez que pour le bien. Connaissez ce qui vous a été confié et le grand mystère que Dieu accomplit en vous. Il se réserve à lui seul les choses d'en haut. Il partage avec vous celles d'en bas. Montrez-vous Dieu au peuple soumis en imitant la bonté et la munificence divine. C'est mon Seigneur, il s'adresse au roi, ce que vous demande ces empressements de tous les peuples, ces perpétuels applaudissements et tous ces regards qui vous suivent. Demandez à Dieu la sagesse. Je me demande si on oserait parler comme ça aujourd'hui à des dignitaires. Merveilleux Bossuet. Comme on le voit pour Bossuet, l'oraison funèbre, le panégyrique d'un saint, tend à la conversion des fidèles et même du roi. Ces deux genres ont ceci de commun. Ils sont le portrait moral d'un personnage, là, dont la vie est exemplaire, puis l'éloge de ses vertus. Mais il faut remarquer cependant que Bossuet n'emploie pas la même méthode pour les deux genres. Et dans l'oraison funèbre, il replace son personnage dans les événements au milieu desquels il a joué son rôle. Il en profite pour brosser un tableau des événements, puis les apprécier, puis il trace un procès très précis, très, très coloré, là. Il y va. C'est si surprenant quand on lit ça. Il raconte même des choses qu'il ne devrait peut-être pas raconter. Il recourt à des documents, parce qu'il a le souci de la vérité. Mais quand il s'agit d'un panégyrique, Bossuet procède autrement, parce que là, il laisse de côté tout ce qu'il y a de miraculeux dans la vie du saint. Puis les considérations théologiques ou morales occupent la plus grande partie de son discours. Le panégyrique de Saint Bernard est une très heureuse exception à cette méthode. Les faits historiques sont suivis de plus près. Le portrait de Saint Bernard que Bossuet présente comme le type idéal du chrétien est beaucoup plus fouillé. Et malgré les différences de détails, les oraisons funèbres et les panégyriques méritent à plus d'un titre d'être étudiés et comparés ensemble. Ça existe dans la belle collection de la Pléiade, Bossuet, oraisons funèbres et panégyriques. C'est un texte établi et annoté par l'abbé Bernard Velot, dont je me suis inspiré pour vous parler de Bossuet. Cet abbé Velat est un spécialiste de Bossuet. On a publié aussi, au Québec, un Bossuet aux éditions Pauline, témoin classique de la foi. Ce sont les textes majeurs choisis et présentés par Jean Calvet, agrégé de l'université, édité par Maurice Lebel, qui est professeur émérite de l'Université Laval. Alors, c'était publié à Montréal et à Paris par les éditions Pauline. Il y a un peu plus de 10 ans, 1983. C'est un beau volume d'environ 170 pages. Et j'y trouve, en page 29, ce beau texte. Quand on se donne à Bossuet pour l'étudier, on est immédiatement entraîné à sa suite dans les problèmes les plus graves auxquels il se donne lui-même. Il ne nous retient pas en lui. Il ne nous attache pas à lui. Comme il s'oublie, nous en venons à l'oublier, pour considérer avec lui les grands intérêts de l'Église et de l'humanité. Avec tels autres, il faut faire effort pour voir les choses que leur personnalité recouvre et nous cache. Mais avec lui, Bossuet, il faut faire effort pour saisir sa personne derrière les choses qu'il pousse devant nous avec tant de relief. revenons à lui cependant. Et là, il explique qui est ce Bossuet. Il y a de très très beaux textes dans ce livre publié aux éditions Pauline. Les sermons de Bossuet n'ont pas été imprimés de son vivant. C'est son neveu qui s'en est occupé, qui était évêque aussi. Et il ne parlait que pour l'instruction des âmes, Bossuet. Il ne voulait pas la gloire littéraire. C'était terrible de retrouver ces textes. Très difficile, ils avaient été distribués à tout venant. Bossuet n'apprenait jamais ses sermons par cœur. Il ne les écrivait que pour le plan général. Et les citations de la Bible, ou des pères de l'Église, puis certains exemples, ça il les notait. Au début de sa carrière oratoire, il ne s'estime pas suffisamment maître de ses expressions, alors il les rédigeait du commencement à la fin, et plus tard, il va se contenter d'un simple canevas, très concis, portant souvent des références à des sermons antérieurs. Lorsqu'il est en chaire, il veut rendre sa prédication objective, directe, incisive, pratique. Il veut l'approprier à son auditoire, alors il suit des yeux les réactions que son argumentation fait sur la foule, puis regarde, il voit si les gens, quelle est la réaction, et ainsi il est amené à modifier une nouvelle fois ses développements. Et c'est dire que les manuscrits qui nous restent sont loin de nous donner les termes exacts dans lesquels les sermons ont été prononcés par l'orateur. Mais heureusement, nous avons quand même une bonne partie de la pensée de Bossuet, publiée particulièrement dans les éditions de la Pléiade, grande collection, Bossuet, oraison funèbre et panégyrique.